Maud Michaud, bonjour.
Bonjour.
À la mort d'Elisabeth II, les EFF en Afrique du Sud ont dit qu'ils ne pleuraient pas la reine. J'imagine que ce n'est pas une surprise, cette réaction.
Ce n'est pas vraiment une surprise. En effet, il y a de nombreux territoires en Afrique qui ont des réactions contrastées à la mort de cette reine, qui a été reine à un moment où le Royaume-Uni était encore à la tête de nombreux territoires sur le continent africain et qui a donc vu le vent du changement, comme on l'a dit, souffler sur tous ces territoires qui sont devenus indépendants dans les années 50, 60, parfois dans la violence.
La violence a été particulièrement forte au Kenya, où les réactions ont également été très partagées au décès d'Elisabeth II. La guerre de décolonisation a été très sanglante. Qu'est-ce qui s'est passé?
La décolonisation du Kenya a été marquée par le sang et la violence, car c'est un territoire qui faisait un peu exception. C'était l'une des rares colonies de peuplement du continent africain. Petit à petit, des colons, notamment des aristocrates, se sont installés sur ces terres qui étaient réputées très fertiles et bien plus saines que l'Afrique de l'Ouest, et ont créé là-bas de grands domaines de plantations de thé et de café notamment, en déplaçant et expropriant des agriculteurs autochtones, notamment ceux qui appartenaient à l'un des peuples kényans bantous qui s'appelle les Kikuyu. Et dans les années 50, certains de ces agriculteurs décident de se rebeller contre cette présence de colons britanniques blancs qui les ont expropriés, qui les empêchent de voyager librement également, et qui donc décident d'essayer de faire valoir leurs droits contre cette minorité blanche. On parle de environ 10 000 colons blancs qui donc tiennent à la fois les institutions politiques du pays, mais également, bien entendu, toute l'économie tourne autour de l'agriculture de ce pays-là.
Et ça a été la révolte qu'on appelait des Mao-Mao. Comment l'Empire britannique a tenté de briser ce mouvement?
Oui, les Mao-Mao, donc, étaient au départ une société secrète qui utilisait des méthodes assez violentes, notamment à l'encontre d'autres Kényans, d'autres Kikuyu, qui, selon eux, collaboraient avec les Britanniques. On assiste à des actes terroristes, des assassinats, et les Britanniques, donc, déclarent l'état d'urgence en 1952 pour lutter contre cette société secrète. Et la façon dont les Britanniques ont maté cette rébellion, en tuant, en exécutant, en pendant les rebelles. On estime qu'il y a environ 20 000 rebelles tués pendant cette période, hein, de 1952 en gros jusqu'à 1960, notamment en utilisant des camps de détention, des camps de travail. Et pendant très longtemps, le gouvernement britannique a bien fait en sorte de cacher toutes les archives qui pouvaient documenter cet épisode sanglant de la décolonisation de l'Empire britannique. Je pense que ce qui s'est passé en 2013 avec donc la compensation et les excuses formelles qui ont été données à certains vétérans ont en fait ouvert la porte à d'autres demandes de la part d'autres territoires du Commonwealth aujourd'hui ou tout simplement de l'ancien Empire britannique. Donc ça, ce sont des procès qui sont peut-être à venir puisque l'institution qu'est la monarchie a du mal encore à regarder en face et à documenter, à offrir la documentation nécessaire pour que des enquêtes d'historiens soient faites sur ces problématiques-là. En 2013, le procès qui a donc vu certains Mao-Mao gagner et être compensés pour les torts, les tortures qu'ils avaient subies dans les années 1950 au Kenya, avait été rendu possible grâce au travail d'historiens.
On pourrait répondre que quelque part la reine Élisabeth II n'est pour rien dans ces violences.
Tout à fait, bien entendu. C'est bien entendu pas la reine qui a ordonné que ces révoltes soient matées dans le sang, mais son gouvernement, son administration coloniale et ceux qui la représentaient dans ces territoires le faisaient en son nom, puisque c'était bien une colonie de la couronne.
Alors un autre pays africain où la décolonisation a entraîné des troubles, c'est le Ghana. Pourtant, l'Empire britannique a géré ce processus très différemment de celui du Kenya. Les violences ont été bien moindres. Pourquoi? Et puis comment ça s'est passé au Ghana?
Les discussions avec les leaders indépendantistes se faisaient beaucoup plus sereinement. Et il est vrai que pendant un moment, le Ghana a pu faire figure de décolonisation modèle. C'est le premier territoire qui donc devient indépendant de l'Empire britannique grâce aux actions du président Kwame Nkrumah. On a en tête les images de la reine Elisabeth qui danse avec Nkrumah lors d'un sommet où elle semble avoir voulu justement montrer que même si le Ghana était devenu indépendant, il faisait partie de la grande famille du Commonwealth. Au Ghana, les choses se sont passées vraiment complètement différemment, même en dehors du continent africain.
Maud Michaud, merci beaucoup.